France Musique. C'est l'été sur France Musique. Grand large. Priscille Lafitte.
Bienvenue dans le 8e épisode de ce grand tour de Méditerranée. Nous restons à Marseille aujourd'hui, nouveau port d'attache de toutes celles et ceux qui fuient l'avancée de l'armée nazie. La cité phocéenne devient une terre d'asile pour de nombreux Français, havre provisoire dans l'exode général qui suit la débâcle face aux troupes allemandes. Marseille représente alors l'ultime recours, le seul grand port français encore libre et qui offre des possibilités d'exil, notamment aux États-Unis. Des familles entières sont poussées sur les routes jusqu'aux portes de la Méditerranée. Les plus fortunées vont à l'hôtel, les plus chanceuses sont hébergées chez un particulier. La gare est bondée de voyageurs égarés qui s'installent où ils peuvent, dans les halls, les squares, les jardins publics. Des intellectuels et des artistes viennent chercher une solidarité auprès de la communauté musicale et reconstituer une grande famille des lettres et de la pensée. Parmi les réfugiés à Marseille, il y a l'ethnologue Claude Lévi-Strauss qui doit patienter jusqu'en février 1941 avant qu'une compagnie maritime lui vende un billet pour les États-Unis. Sur ce vieux rafio à vapeur, surchargé de 350 passagers, Lévi-Strauss retrouve le poète André Breton. Beaucoup de citoyens repartent, trouvent un ancrage ailleurs, tandis que d'autres restent à Marseille et tuent le temps dans des cafés en attendant un bateau pour les États-Unis ou des conditions plus favorables pour rejoindre leurs proches. On entend ici le violoniste Zino Francescatti dans une partition signée du monégasque Vincenzo Davico, Sonatina Rustica. Le violoniste marseillais inaugure la nouvelle saison des concerts classiques dès octobre 1940 avant de partir lui aussi pour l'Amérique du Nord. La vie musicale reprend donc, non pas dans les cafés ou les cabarets où la fête est très réglementée, mais dans les institutions publiques. L'Opéra de Marseille rouvre ses portes avec l'œuvre Salammbô d'Ernest Reyer, le compositeur marseillais le plus en vue à l'époque. « Le ténor Georges Thill fait alors les grandes heures de l'Opéra de Marseille, particulièrement en cette ouverture de saison 1940. Il chante les rôles-titres dans Carmen, Samson et Dalila et Payas, premier ouvrage lyrique de Ruggiero Leoncavallo.
Payas n'est plus, si mon visage est pâle. L'homme enfin se redresse, mon cœur qui saigne, du sang demande, aux femmes pires. Non, ailleurs ce n'est plus, je suis cet homme.
En 1940, bat surtout dans le château de Montredon, une propriété située à proximité de la mer, isolée au fond d'un grand parc tranquille du quartier de la Pointe-Rouge. C'est là que la comtesse Lily Pastré héberge en permanence une quarantaine de personnes, des intellectuels et des artistes en difficulté. On y croise notamment Édith Piaf, Francis Poulenc, Darius et Madeleine Millot, Christian Bernard, Boris Cochneau ou encore Joséphine Becker, des écrivains, des peintres et surtout des musiciens pour beaucoup d'origine juive. Lily Pastré adore la musique et dans son château, elle résonne en permanence. Tous les après-midi, des interprètes comme Eliane Magnan et Madeleine Gray donnent des concerts. Madeleine Gray, qu'on entend ici chanter le Kaddish, accompagné par le compositeur Maurice Ravel en personne au piano.
Oh.
La comtesse Lily Pastré est une hôte d'exception et une mécène aussi. Elle crée en 1940 une association afin d'aider les intellectuels et les artistes réfugiés, intitulée « Pour que l'esprit vive ». De nombreux musiciens juifs bénéficient de son aide et de sa protection. C'est ainsi qu'elle favorise le départ en Amérique du compositeur italien Vittorio Rieti en lui fournissant une fausse carte d'identité. Vittorio Rieti, dont on entend ici une œuvre pour piano, La danseuse au lion. Lily Pastré abrite également une pianiste roumaine, Iura Güler, née à Marseille, juive, qui a débuté sa carrière comme enfant prodige à l'âge de 5 ans. Après avoir remporté le premier prix du Conservatoire de Paris, elle a entamé des tournées dans le monde entier.
Thank you.
La pianiste Yura Güler présente à la comtesse Pastré une amie et camarade de conservatoire, elle aussi juive et d'origine roumaine. Clara Askill a franchi la ligne de démarcation en mars 1941 et fait des séjours prolongés à Montredon. Le 20 décembre 1941, Clara Askill y joue son concerto, le 9e de Mozart, en mi bémol majeur, le concerto dit « Jeune homme ». C'est à cette époque que la pianiste Clara Askill commence à se plaindre de violents maux de tête et à ressentir de graves troubles de la vision. La comtesse finit par trouver un jeune médecin à Marseille, Jean Amburger, qui a fui Paris en catastrophe. Il faisait partie d'un des premiers réseaux de résistance, le Musée de l'Homme, qui vient d'être découvert par les Allemands et a donné lieu à de graves vagues d'arrestations. Il a franchi la ligne de démarcation dans des conditions rocambolesques. Le docteur Amburger diagnostique une tumeur de l'hypophyse qui comprime le nerf optique. Il faut donc opérer Clara Askill de toute urgence. L'opération est coûteuse, la comtesse Pastré couvre les frais chirurgicaux. Clara Askill donne encore un dernier concert dans le parc de Montredon avec le violoncelliste Pablo Casals. Plus tard, tous deux, en 1953, se retrouveront au Festival de Prades pour enregistrer ce fameux 9e concerto pour piano. Casals à la baguette et Clara Askill au clavier.
Thank you.
Clara Askill subit une opération le 29 mai 1942 à l'Hôtel Dieu à Marseille. La pianiste reste consciente pendant toute la durée de l'intervention chirurgicale. Elle pianote même sur la table ce fameux concerto numéro 9 de Mozart pour vérifier qu'elle conserve toutes ses aptitudes. Peu de temps après, elle est à nouveau sur scène pour le festival Mozart organisé dans le parc de Montredon avec l'orchestre de la Société d'études mozartiennes sous la direction de Félix Raugel. La pianiste est très pâle, la tête entourée de pansements qui dissimulent ses plaies et son crâne rasé. Le peintre Rudolf Kundera, qui est présent à Montredon, l'immortalise avec la tête bandée dans un dessin resté célèbre. Clara Askill obtient finalement, grâce à la comtesse Pastré, un visa pour la Suisse. Elle se réfugie alors à Vevey, chez Charlie Chaplin.
Thank you.
Le passage du violoncelliste Pablo Casals semble avoir constitué un des grands moments de Montredon au printemps 1942. Le musicologue Antoine Goléa écrit, je cite, « Regardez le modeste petit homme qui prend place sur son étroite estrade. Regardez-le accordé avec la conscience d'un bon élève, humble et respectueux. Il lève l'archet, tout se tait, tout est fondu, le bon public et le mauvais. » Le silence des sphères commence.
France Musique, Grand Large, Priscille Lafitte.
Un tout jeune prodige du piano du nom de Samson François arrive lui aussi à Marseille. La claviériste Madeleine de Valmalette recommande le jeune interprète à la comtesse Pastrée en ces termes. C'est un pianiste extraordinaire, il est très jeune, occupez-vous de lui. Marguerite Long écrit également une lettre de recommandation. Samson vient de recevoir le prix Long-Thibault. Et si le jeune homme choisit Marseille, c'est bien pour s'y sentir plus libre qu'à Paris. Samson François se partage entre la maison de la comtesse Pastrée, Havre, où les plus grands artistes de l'époque ont trouvé refuge. Nous y avons déjà croisé Clara Askill, Pablo Casals et Jura Güler. Et une maison très différente, moins contraignante au quotidien, où l'on entre et on sort comme dans un moulin. C'est la demeure de Charles Gounel, grand-père d'Edmond Charleroux, négociant en huile à Marseille. Samson François devient en moins de 2 mois l'enfant de la maison. Samson François est un de ces artistes qui ne supporte pas les entraves. Il préfère être complètement libre et pouvoir disparaître sans donner de nouvelles. En octobre 1942, Samson François donne son premier concert public à Marseille, salle du Colisée, sous les auspices des heures musicales, avec les études symphoniques de Schumann, Scarbo, extrait de Gaspard de la Nuit de Ravel. Et l'année suivante, en novembre 1943, une toccata et fugue de Bach et des œuvres de Debussy. Le critique musical Antoine Goléa écrit alors « Une maturation nécessaire équilibrera sans doute ce que le bouillonnement de cet adolescent a d'unilatéral et d'excessif. N'importe, il y a là une authentique nature d'artiste. »
Thank you.
Edmond de Charleroux, future femme de lettres et journaliste, détaille la personnalité juvénile de Samson François. Ils ont tous les deux le même âge, entre 18 et 19 ans. Edmond Charleroux est la petite fille de Charles Gounel qui héberge le jeune pianiste. Elle se souvient qu'un soir, Samson François part à Monte-Carlo donner un concert, premier engagement d'envergure dans le milieu de la France. Il ne donne aucune nouvelle jusqu'à ce que deux jours plus tard, à minuit passé, le téléphone sonne. La famille craint que le pianiste ait été arrêté. Et la voix de Samson retentit « Eh ben voilà, c'est dramatique, je ne peux pas rentrer à Marseille, est-ce que vous pouvez m'envoyer un peu d'argent ?» Voilà qu'il a découvert une pâtisserie extraordinaire avec des baba au rhum et des puits d'amour, de la chantilly, en veux-tu, en voilà. Et après avoir payé sa note, le marché noir à Monte-Carlo est hors de prix, il faut le dépanner pour qu'il puisse prendre son billet de train.
Thank you.
Mais revenons à Marseille, dans ce havre musical qu'est le château de Montredon. Par une nuit lumineuse de l'été 1942, la foule se presse dans le parc du château. Elle est invitée à s'asseoir sur des chaises de fortune disposées dans la verdure autour de l'allée centrale. On va donner le songe d'une nuit d'été de Shakespeare sur une partition écrite pour l'occasion par Jacques Ibert. La scène est représentée sur la terre battue de l'esplanade recouverte de sable rouge. Ce songe d'une nuit d'été ressemble à un rêve, peut-être le dernier pour ces réfugiés, réunis dans l'asile apaisant de Montredon. La suite élisabéthaine de Jacques Ibert, tirée de son songe de nuit d'été. Cette soirée à Montredon a coûté une fortune à la comtesse Pastré. Le peintre Christian Bérard a dépensé une somme immense pour habiller les 52 personnages malgré la pénurie d'étoffes. Il a utilisé les rideaux de tarlatane du château pour confectionner les robes de fées et il a arraché les grandes tentures de perce rouge de l'escalier monumental pour réaliser les pourpoints. L'Orchestre national est dirigé par Manuel Rosenthal, qui lui aussi s'est replié dans la région. Cette représentation, qui a nécessité tant d'énergie et de dépenses, est l'aventure d'un soir. Un air de fête dans la détresse générale, une rêverie éveillée l'espace d'une nuit.
Oh.
Le 11 novembre 1942, les troupes allemandes franchissent la ligne de démarcation. Le lendemain, elles sont à Marseille. Les blindés à croix gammée défilent sur la Canebière. La ville est en état de siège. Un couvre-feu à 20h oblige les salles de spectacle à annuler leurs représentations. C'est la fin de la guerre. L'armistice a été signé. Nous voici à la Scala de Milan, le 18 mai 1946. Le chef Arturo Toscanini est revenu des États-Unis. Rappelez-vous, il avait claqué la porte de la prestigieuse maison milanaise en 1929. Il avait dû affronter des attaques fascistes et préférait prendre le large. Il était à Tel Aviv le 26 décembre 1936 pour diriger le tout premier concert d'une nouvelle phalange créée par le violoniste Bronislav Huberman, l'Orchestre de Palestine. Et l'année suivante, Toscanini avait créé un orchestre sur mesure pour sa direction, le NBC Symphony Orchestra à New York, orchestre avec lequel il a beaucoup enregistré. Voici donc de retour Arturo Toscanini à Milan en 1946 dans une Scala reconstruite après le bombardement 3 ans plus tôt. Toscanini auditionne pour l'occasion une jeune soprano, Renata Tebaldi. Elle a 24 ans. Elle sera choisie comme soliste pour le Tédéum de Verdi et chantera dans la prière tirée de Moïse en Égypte de Rossini, aux côtés du ténor Giovanni Malipiero, de la basse Tancredi Pazero et de la mezzo Yolanda Gardino. Voici la captation qui a été faite de cette soirée exceptionnelle du 18 mai 1946 à la Scala de Milan. Le concert est alors diffusé à la radio et sur les haut-parleurs placés devant la cathédrale de Milan, pleine à craquer. Cette soirée de réouverture se déroule dans une immense ferveur populaire. Thank you. Toscanini, longtemps ovationné à la tête du chœur et de l'orchestre de la Scala de Milan le 18 mai 1946 pour la réouverture de ce lieu mythique qui verra, dans les années suivantes, défiler de très grandes voix que nous entendrons dans les épisodes suivants de Grand Large. Merci à toute l'équipe embarquée dans cet épisode de Grand Large. Valérie Lavalard à la technique, Patrick Lérisset à la réalisation, Pauline Boisaubert pour la documentation et la mise en ligne, ainsi que l'équipe de la discothèque de Radio France. À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.